Éric Oplassa, le débat sur France Bleu Pays Basque.
Bonjour Éric Oplassa, spécial G7 ce week-end. Nous sommes à un peu plus de deux mois du G7 qui se déroulera du 23 au 26 août prochain à Biarritz. Nos invités, Michel Venac, le maire de Biarritz. Bonjour Monsieur Venac.
Bonsoir.
Et
bonjour.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Eric Spitz. Monsieur Spitz, bonjour.
Bonjour à tous vos auditeurs.
Après le Canada l'an dernier, c'est donc la France. C'est à la France de présider le G7 et d'accueillir l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Ces sept puissances représentent 10% de la population mondiale et environ 40% du PIB mondial. Pour vous interroger à mes côtés, Paul Nicolaï. Paul, bonjour.
Bonjour.
Nous évoquerons bien sûr pendant cette émission le contre-sommet qui lui se tiendra à partir du lundi 19 août. Nous appellerons Laurent Tilleul, membre d'Attaque et de la plateforme anti-G7 qui regroupe 45 associations.
Éric Oplassa, le débat sur France Bleu Pays Basque.
Nous évoquerons aussi les retombées économiques qui sont attendues pour le territoire, l'organisation de certains services, la justice par exemple, ou encore les services sanitaires. On commence, Paul Nicolaï, dans un instant avec un sujet très pratique qui sont les fameuses zones rouges et zones bleues à Biarritz. Mais juste un mot d'introduction, Eric Spitz. La nature d'un G7, c'est quoi ?
Il faut remonter un petit peu en arrière. Au début des années 70, les grands pays sont déstabilisés par la crise pétrolière. Ils sont donc cinq puissances, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon et les États-Unis qui commencent à avoir des entretiens informels. Et puis le président Valéry Giscard d'Estaing propose en 1975 un sommet beaucoup plus institutionnalisé à Rambouillet en associant l'Italie. Ça c'est le G6. Et puis l'année qui suit, les États-Unis invitent pour que le Canada insiste pour que le Canada soit invité. Et donc on retrouve notre G7. La Russie fera un passage. De 95, de 95 à 2013, mais sera exclue du G8, ce qu'on appelait le G8 à cause de l'invasion de la Crimée. Mais c'est pas une administration, c'est un endroit où c'est plutôt un moment, un lieu d'échange informel entre chefs de l'État. Mais il y a eu des fois des décisions qui ont été prises, mais ce n'est pas une administration.
Allez, Paul Nicolaï, il y a les sujets très pratiques, les fameuses zones rouges, zones bleues, à Biarritz.
Voilà, la zone rouge qui sera le cœur du G7 autour de l'Hôtel du Palais, pour faire simple, et puis la zone bleue autour. Alors, des badges sont actuellement délivrés pour les habitants, pour ceux qui viennent en vacances. Michel Venac, à la louche, combien de badges ont d'ores et déjà été délivrés et combien vous pensez en délivrer au total ?
Écoutez, de badges délivrés, alors en tout cas d'inscriptions reçues, oui, de personnes qui demandent des badges, c'est à peu près un peu plus de 10 000 maintenant. Hein, mais nous continuons la campagne, c'est-à-dire dire à tous ceux qui entre le 23 et le 26 seront à Biarritz, que s'ils résident sur les zones bleues et rouge, qu'ils soient résidents, qu'ils soient commerçants, eh bien, il faut qu'ils se fassent badger et que leur véhicule porte un macaron.
Sinon, ils pourront pas rentrer.
Oui. Et que la délivrance de ces badges se fera à partir du 1er août près de Javalkinto. Et pour les étourdis qui auraient oublié de le faire pendant le G7, il y aura un autre centre de délivrance qui sera à l'école du Reptou. Voilà, donc on se munit de ces badges et de ces macarons pour les véhicules.
Le message est bien passé parce que ça, vous l'avez répété. Hein, autant monsieur le préfet que vous-même, l'histoire des badges...
Et on va continuer de le faire.
D'accord. Il y a eu une trentaine de réunions publiques, oui, et depuis quelques jours, nous avons commencé avec Monsieur le maire une campagne de porte-à-porte, donc du sur-mesure pour rencontrer chacun des habitants concernés.
Toc, toc, bonjour, c'est Monsieur le préfet qui veut... Non.
On a des équipes nombreuses, croyez-moi, sur le terrain qui sont dédiées à cet effet. Et moi, je bouge ma chemise ce soir avec vous dans le studio.
Très bien. Alors, dans cette zone rouge, zone bleue, il y a des habitants, il y a des gens qui peuvent louer leur appartement, il y a également des gens qui travaillent, des commerçants. On a fait une petite étude récemment à Biarritz auprès de ces commerçants. Certains se posent encore beaucoup de questions. Est-ce que je reste ouvert ? Est-ce que ça vaut le coup de rester ouvert ? Et si je ferme, est-ce que je serai indemnisé à la hauteur du préjudice subi ? Michel Venac, maire de Biarritz.
Alors, dans la zone bleue, ils peuvent absolument rester ouverts, parce que la zone bleue est accessible. Elle est accessible aux véhicules. Il y aura 4 checkpoints, pourrait-on dire, où on pourra pénétrer avec macarons et avec badge, on pourra pénétrer dans la zone bleue si on est résident, si on est commerçant, si on travaille dans un commerce ou une entreprise, etc. Donc on pourra y pénétrer.
La question, c'est la zone rouge.
Il faut qu'il reste ouvert. Par contre, la zone rouge, là, on ne pénètre pas avec un véhicule dans la zone rouge, véritablement. Par contre, les commerçants de la zone rouge peuvent parfaitement rester ouverts leur commerce. Parfaitement.
Ce que l'on entend, monsieur le préfet, ce sont des commerçants qui se disent zone rouge, difficulté d'accès, etc., etc., je ne vais pas travailler. Est-ce que je peux fermer et dans quelles conditions je serai indemnisé par rapport au chiffre d'affaires perdu?
Pour être très précis, la zone rouge, qui est proche des lieux du sommet, on ne pourra pas y circuler en voiture. On pourra y circuler qu'à pied. Mais dans cette zone rouge vont vivre des milliers de membres de délégations qui vont aller au restaurant, qui vont consommer. Dans la zone bleue, on pourra circuler, comme le disait le maire, à pied, avec son badge, ou en véhicule, avec un macaron. Et pour les personnes qui n'habitent pas dans ces zones, mais qui doivent y entrer pour des raisons professionnelles, une infirmière pour faire des soins à domicile, un commerçant qui doit être livré, et ainsi de suite, ces personnes pourront pénétrer dans les zones. Simplement, et là je réitère mon appel, il faut, comme toutes les personnes, qu'elles demandent un badge. Il faut que l'infirmière qui travaille à domicile, elle demande un badge. Elle pourra pénétrer en zone 2 comme en zone 1. Donc là, il faut être extrêmement clair sur ces points.
Michel Venac, finalement, pour les commerçants, comment faire la part des choses entre les contraintes liées à la sécurité, hein, que tout le monde peut comprendre, et puis les opportunités qui peuvent se présenter? À votre avis, je vous demande votre avis, ils vont plus y gagner ou y perdre?
C'est difficile à savoir. Le conseil que je donne aux commerçants, qu'ils soient en zone bleue ou en zone rouge, je leur donne le conseil de rester ouverts. Parce qu'il y aura une population rapportée, monsieur le préfet vient de le dire, qui sera une population consommatrice. Et donc, il faut que, moi, je leur donne le conseil de rester ouverts. Vous avez parlé de l'indemnisation.
Oui.
Sur l'indemnisation, il y a les possibilités couvre l'État, peut-être monsieur le préfet en parlera, mais vous savez qu'une municipalité a aussi la possibilité, une ville a aussi la possibilité d'alléger un certain nombre de charges des commerces qui auraient été particulièrement impactés. Donc tout ça, on le regardera.
Oui, c'est possible,
je serai très attentif à cela.
Il y a différents dispositifs qui sont activés aussi bien par la direction départementale des finances publiques que par la direction de l'emploi pour aider les entreprises qui sont impactées. Bon, sur 3 jours, il faudra démontrer qu'il y a une chute du chiffre d'affaires par rapport aux 3 jours précédents, des 2 ou 3 années précédentes. Mais je suis comme le maire de Biarritz, je n'y crois pas. Pour la plupart des commerçants, je crois que ce sera quand même plutôt une bonne affaire.
Ouais, finalement, crier au loup, pour certains, c'est peut-être une manière de se prévenir, de se prémunir.
Écoutez, je sais pas. En tout cas, moi, je pense que, au contraire, il y aura beaucoup de personnes, notamment les délégations, qui sont des consommateurs.
Et simplement pour revenir sur le passage du président de la République, il y a deux ou trois semaines à Biarritz, il est resté longtemps, il s'est entretenu avec les commerçants. Et je peux vous dire que l'accueil a été excellent.
Oui. Il y en avait 2 ou 3 qui toussaient. J'y étais, 2 ou 3 qui toussaient, mais globalement, c'est vrai qu'ils étaient plutôt bien reçus.
C'est difficile d'avoir une unanimité, on est une démocratie.
Et pour être tout à fait honnête, ceux qui n'étaient pas trop favorables à la venue d'Emmanuel Macron étaient à distance du périmètre lors de cette visite.
Érico Plaça, le débat sur France Bleu Pays Basque.
Alors, un autre aspect qui suscite énormément d'interrogations, Paul Nicolaï, ce sont les déplacements. Comment se déplacer? Est-ce que l'aéroport est accessible? Est-ce que des gares seront fermées? Paul Nicolaï.
Oui, là aussi, on va se répéter, mais il est bon de se répéter. Hein. L'aéroport sera fermé, si j'ai bien compris.
L'aéroport, le 23, journée de préparation. L'aéroport, le vendredi, sur les 2 premiers vols du matin, c'est-à-dire celui vers Lyon et celui vers Paris-Orly, décolleront. Ensuite, l'aéroport est fermé jusqu'au lundi soir. Et on recevra les appareils et des délégations. Voilà pour l'aéroport. Quant à la gare, elle sera effectivement fermée, la gare de Biarritz, mais il y a les gares de Dax ou les gares de Saint-Jean-de-Luz, elles seront ouvertes.
Oui, Bayonne est beaucoup fermée, je crois aussi.
Oui, Dax, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye resteront ouvertes et la gare de Bayonne sera fermée ainsi que la gare de Boucau.
Sécurité nécessaire dans le périmètre de proximité du G7, ces fermetures de gare?
Oui, parce que on aura un périmètre de sécurité à mettre en œuvre. La SNCF l'avait déjà quasiment anticipé, même si ce sont pas des professionnels de sécurité, ils se sont bien rendus compte que ce serait difficile de garder la gare ouverte. Donc le fait de maintenir Saint-Jean-de-Luz et Hendaye plus au sud va permettre d'écouler le trafic. Mais nous travaillons avec la SNCF là-dessus.
Il y a une question que beaucoup de personnes se posent, est-ce que la frontière sera fermée ou est-ce que la circulation sera un peu plus réglementée que d'ordinaire? La frontière franco-espagnole, eh bien, il y a tout.
Alors, pour la frontière, premièrement, elle ne sera pas fermée.
D'accord.
En revanche, et ça pourra peut-être satisfaire des automobilistes, les poids lourds seront interdits, le samedi, dimanche, lundi. Et nous distribuerons et nous ferons une campagne de communication auprès des automobilistes en France et en Espagne. Nous ferons une campagne de communication pour, en quatre langues, en français, en espagnol, en anglais et en arabe, pour conseiller aux automobilistes qui passent par exemple leurs vacances dans le sud de l'Espagne ou dans le Maghreb de revenir par une autre barrière de péage que Bir Yatou.
On peut penser également aux modalités de déplacement sur l'agglomération, sur Bayonne, Anglet, Biarritz. Un mot, Michel Venac, des transports en commun. Est-ce qu'ils seront desservis normalement avec un terminus qui sera à la zone rouge, en gros?
Alors, la question de la mobilité sur Biarritz est importante et part d'un principe suivant. Toute restriction de mobilité individuelle sera compensée par des moyens de mobilité collective. Voilà l'idée, simplement, très simple. C'est-à-dire que nous mettrons à disposition, lorsque la mobilité individuelle par son propre véhicule n'est pas possible, nous mettrons à disposition des navettes et des systèmes collectifs de mobilité. Donc la mobilité sera assurée lorsque, je le répète, elle n'est pas possible par les moyens personnels, par des moyens collectifs.
On peut s'attendre à ce que, hors de la zone rouge, c'est-à-dire en zone bleue et même au-delà, des axes de circulation soient bloqués pendant la durée du G7 pour le déplacement des chefs d'État, pour le déplacement des délégations. Est-ce qu'il est possible que la circulation soit perturbée sur un secteur plus conséquent, Eric Spitz?
Le seul axe qui sera sécurisé pendant tout le G7, c'est l'axe qui mène de l'aéroport au lieu du sommet. Les autres axes seront coupés par moment, mais continueront à fonctionner. On a un partenariat, en tout cas, avec l'autoroute, avec Vinci, pour que les gens empruntent au maximum la 63. Vinci est d'ailleurs prêt à baisser fortement ses tarifs pour que ce soit l'autoroute qui soit prioritairement empruntée, par exemple, pour aller de Bayonne à Biarritz. Donc ça, c'est une mobilisation de tous, et je tiens à saluer tous nos partenaires, la SNCF, Vinci, qui travaillent sur ce dossier.
Un petit détail, les travaux du trambus, ils seront stoppés pendant le G7 ?
Ah, les travaux du trambus, normalement, seront achevés pour l'essentiel.
Ah, vous pensez ?
Ah ben oui, absolument.
Oui. Vous l'affirmez,
la
parce que ça semble
un travaux
peu...
sur Biarritz, vous le savez, c'est toujours la même, le 30 juin. Le 30 juin, les travaux sont normalement finis. Le rond-point de l'Europe est terminé. Sur la Marne, les choses sont très avancées. Et sur Édouard VII et Javel Quinto, normalement, tout est fini à la fin du mois.
Alors, on parle beaucoup de sécurité sur les transports, aéroports, gares, frontières, mais on peut penser que ces contrôles de sécurité n'auront pas lieu qu'autour du Pays Basque, qu'ils auront lieu. Vous parliez de l'Allemagne sur Alapsus tout à l'heure, mais à la frontière allemande, il y aura des contrôles. Frontière belge, il y aura des contrôles. Paris, il y aura des contrôles sur les destinations Pays Basque.
C'est une mobilisation nationale pour que ce sommet réussisse au Pays Basque. Et vous avez raison, l'organisation d'un tel sommet nécessite une coopération internationale avec tous les pays européens. Et si j'ai commis ce lapsus tout à l'heure, c'est pas uniquement parce que je suis alsacien, mais c'est aussi parce qu'on va travailler, entre autres, avec les Allemands, les Belges, les Italiens, etc.
C'est les Black Blocs qui vous inquiètent sur ce secteur-là, très précisément?
L'expérience du sommet de Hambourg l'année dernière a montré que effectivement en Allemagne il y avait beaucoup de personnes violentes, mais nous travaillons bien avec la police allemande qui va sans doute édicter des interdictions de sortie du territoire allemand pendant la durée du sommet.
Oui, parce que
allez-y, Paul Nicolas.
Les policiers allemands, italiens ou espagnols connaissent leur black bloc, quoi.
Oui.
Donc il y a un travail de renseignement, un travail de...
Oui, il n'est pas impossible que certains policiers étrangers soient aussi à Bayonne et à Biarritz et nos aides.
forcément pour repérer d'éventuelles personnes qui sont connues de leur service. Est-ce que vous avez une estimation du nombre de manifestants violents assumés qui pourraient descendre sur Biarritz et sur le Pays Basque?
Non, je n'ai pas de... La menace, en quelque sorte, elle évolue tous les jours. Moi, mon objectif, c'est qu'on ne les voit pas au Pays Basque, très clairement.
C'est-à-dire que les actions de contrôle et d'interception soient faites au-delà, au poste frontière à Paris, voilà. avant l'arrivée sur le Pays Basque.
Pour la majorité d'entre eux.
Alors, je sais que le chiffre est très certainement secret, mais est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de policiers, de forces de l'ordre mobilisés?
On entend 5 000, 10 000.
Non, c'est un chiffre, c'est vrai que qu'on ne donne pas à l'antenne. Mmh. Je peux vous dire en tout cas que le dispositif sera proportionnel à la menace et que on m'a donné carte blanche pour mobiliser les moyens à Paris. Le président d'ailleurs l'a dit aux élus lorsqu'il a déjeuné avec eux il y a quelques semaines que il y aurait les moyens appropriés à cet événement.
Une fourchette de 5 à 10 000 n'est pas ni déraisonnable ni à côté de la plaque.
Les journalistes, vous êtes tous les mêmes.
C'est juste pour avoir un ordre d'idée.
Ça s'y fera sans doute en plusieurs milliers, mais je ne peux pas vous dire exactement combien.
Dans un instant, nous parlerons du contre-sommet qui sera organisé par une quarantaine d'associations. Laurent Tilleul est membre d'ATTAC, il est membre également de la plateforme Anti-G7. Il sera en ligne avec nous dans un instant.
Vous résidez ou travaillez à Biarritz du 23 au 26 août ? Demandez dès à présent vos badges et macarons pour accéder à la ville pendant le G7. Vous êtes résident en zone 1 ou 2 ? Renvoyez le formulaire reçu dans votre boîte aux lettres. Vous êtes professionnel ? Faites votre demande en ligne. Vous avez jusqu'au 30 juin. Plus d'infos sur biarritz.fr.
Monsieur ! Monsieur !
Je cherche un artisan pour faire des travaux. Vous pouvez me conseiller ?
Demandez à léa.fr.
Léa.fr ?
C'est un site internet local qui vous met en contact avec le professionnel qu'il vous faut sans avoir à laisser vos coordonnées. Et n'oubliez pas, leah.fr avec un H comme habitat.
Érico Plaça, le débat sur France Bleu Pays Basque.
Éric Oplassa, le débat spécial sommet du G7 à Biarritz. Nos invités, Éric Spitz, préfet des Pyrénées-Atlantiques, et Michel Vanac, maire de Biarritz. Alors si le G7 se déroulera du vendredi 23 au lundi 26 août, le contre-sommet, lui, débutera dès le lundi 19 août. Reste une question, Éric Spitz, où se tiendra ce contre-sommet?
Alors nous avons rencontré une dizaine de fois les opposants au sommet qui sont regroupés sur une plateforme au niveau local et une autre au niveau national. Ils nous ont fait part, on a eu de longues discussions, nous ne voulions pas Bayonne, ils ne voulaient pas Dax, ils ne voulaient pas Saint-Pé-sur-Nivelle, et finalement ils nous ont dit qu'ils souhaitaient organiser leur débat au FICOBA, à Irun. Et donc, ils nous ont demandé de trouver un terrain. Et effectivement, nous sommes en train de travailler avec eux sur la possibilité d'avoir un terrain qui se situerait dans le secteur Urugne-Andaille. Nous avons déjà réuni les maires, le président de la communauté d'Aglo. Personne ne tombera de sa chaise en entendant cela.
Le lieu, ça peut être l'ancien centre de colonie de vacances de Nestlé sur la commune d'Urugne.
Silence qui vaut réponse. Ça peut être celui-là.
Oui, mais vous le demanderez à votre interlocuteur si tout à l'heure là, Monsieur Tilleul, quand il va.
Eh bien, écoutez, il est avec nous, Laurent Tilleul. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci d'être en ligne avec nous, membre d'ATTAC, membre de la plateforme Anti-G7. Laurent Tilleul, le site l'ancien centre de colonie de vacances de Nestlé sur la commune d'Urugne, près d'Andaille. Ce site, il est validé. Vous l'avez validé avec la préfecture. Ce sera là-bas.
Bon, je vais pas vous faire le coup du silence pénible. Je sais qu'à la radio, vous aimez pas trop ça. Ce que je peux vous dire actuellement, c'est que non, il y a encore des difficultés en termes d'organisation, et pour l'instant, rien n'est validé. Non.
Quelles difficultés ?
Des difficultés en termes de déplacement, en termes de nombre de militants qui peuvent être accueillis, en termes de parking des voitures des militants, de parking des caravanes, camions aménagés des militants qui souhaitent nous rejoindre, le village alternatif qu'on souhaite le plus visible possible et pour lequel on n'a pas non plus tellement de vision, plus le FICOBA qui était initialement pré-réservé et validé et qui nous a été retiré visiblement par des pressions politiques et sur lequel pour l'instant on n'a aucune nouvelle.
Le maire d'Irun qui finalement a décidé que le Ficobas serait fermé à cette période. Eric Spitz en réponse à Laurent Tilleul.
Oui, moi je voudrais déjà dire monsieur Tilleul ce que j'ai dit aux autres partenaires de la plateforme. Pour moi, un sommet du G7 réussi, c'est aussi un contre-sommet réussi. On est dans une démocratie, vous n'exprimez pas la même vision du monde que celle que vont peut-être exprimer les principaux chefs d'État, mais il faut que qu'on vous entende, il faut que vos manifestations soient couvertes par la presse, et ça fera de belles images d'un débat d'idées qui honorera tout le monde. Donc vous le savez, on a déjà réussi l'exploit de trouver un terrain d'un ancien centre de vacances, je cite pas le nom parce que ce serait faire de la pub pour une marque, d'un ancien centre de vacances de plusieurs hectares avec eau, électricité et tout ça gratuitement. Je confirme les propos de monsieur Tilleul. Encore aujourd'hui, il y a eu un travail, il y a eu trois groupes de travail qui ont été constitués parce qu'on a des problèmes d'accès, on a des problèmes de stationnement. Et puis maintenant que le maire d'Irun, en fait, lui, il pouvait pas répondre tant qu'il n'était pas réélu. Et je crois qu'il sera réélu samedi. Donc, il faut attendre que le maire d'Irun soit réélu. Et puis, une fois qu'il sera réélu, on ira le trouver et puis on discutera avec lui.
Possibilité que le Ficobas soit mis à disposition,
oui,
à ce moment-là.
Et c'est lui faire un procès d'intention que de dire que j'ai toujours entendu dire qu'il y avait eu des travaux au Ficobas jusqu'au 28 août. Mais moi, s'il faut peser et aller aux côtés de la plateforme pour essayer de convaincre le maire d'ouvrir le Ficobas plus tôt, je le ferai sans hésiter.
Laurent Tilleul, les choses vont se régler.
Oui, oui, bah de toute façon, bon, clairement le discours officiel de la préfecture nous convient parfaitement. Hein, on est exactement sur la même longueur d'onde. On souhaite un débat démocratique. On souhaite apporter notre avis à ce sommet. Le problème, ce qui nous pose problème actuellement, c'est que entre un discours très positif qui nous est amené par le préfet, nous on constate actuellement qu'on est à 2 mois des dates de ce contre-sommet et que pour l'instant on a toujours on a de grandes difficultés en fait à s'organiser autour de points de rassemblement et que dans ces conditions-là, c'est extrêmement difficile pour nous. Un, d'avoir une visibilité, et deux, de garantir le succès de ce contre-sommet. On est actuellement dans une urgence absolue pour trouver des solutions très très rapidement.
Oui, oui, mais il y avait des municipales en Espagne, ça on n'y peut rien, et j'ai bon espoir qu'une fois le maire élu, réélu plutôt, on puisse avancer.
Un autre point.
De toute façon, tout le monde souhaite ça. Pour l'instant, on n'a pas rompu les discussions. Et on avait un premier deadline, on va dire, qui était au 1er juin, qu'on repousse petit à petit en essayant de faire avec les éléments qui s'ouvrent petit à petit également. Mais ça reste très très tendu et nous on reste actuellement assez inquiets, oui.
Laurent Tilleul, vous annoncez un rassemblement, la plateforme anti-G7, le dimanche 25 août. Une zone que vous qualifiez d'arc-en-ciel sur Biarritz, Anglette, Bayonne, secteur qui en principe est interdit aux manifestations. Vous maintenez ce rassemblement?
Oui, oui. Donc, bon, c'est une action qui est principalement symbolique. Hein. Les trois piliers de la plateforme anti-G7, GESASPIES, c'était le débat idéologique, les rassemblements de masse, donc le contre-sommet et les manifestations, mais c'était également la désobéissance civile, c'est-à-dire qu'on considère, nous, qu'il y a des lois actuellement qui s'appliquent en France et qui sont absolument à combattre. Notamment ces interdictions administratives de manifester. On a un état d'exception qui a été mis dans le droit commun. Hein. L'état d'urgence a été intégré dans le droit commun. C'est des choses que nous on combat absolument. Et donc on veut marquer le coup de façon symbolique en occupant 7 lieux autour de la zone rouge et bleue qui permet de stériliser globalement le centre-ville de Biarritz.
Mais Laurent Tilleul, vous savez que si vous organisez ces manifestations, ça risque fatalement de chauffer à un moment ou un autre avec les forces de l'ordre qui sont là pour faire appliquer les interdictions de manifestation. Alors vous cherchez quoi exactement?
Ce qu'on cherche, c'est attirer l'attention du public sur le fait que actuellement on continue en France à avoir de grandes difficultés à assurer la liberté d'expression, la liberté de circulation. On comprend bien l'intérêt pour des chefs d'État qui ont plus ou moins fait sécession avec le peuple français, hein, on va dire, de se protéger et de s'éloigner de la foule. On trouve ça un peu dommage qu'on en soit arrivé là, mais c'est le cas. Donc les zones rouges et bleues, on va les respecter. Par contre, pour tout ce qui est interdiction de manifester en dehors de ces deux zones-là, on estime que ça n'a pas lieu d'être. Donc c'est vraiment des rassemblements pacifiques. C'est pas des, on va pas au contact. Si les policiers sont là et nous empêchent de nous rassembler, eh ben on ira se rassembler ailleurs. Et peut-être que petit à petit, on sera repoussé au-delà des limites de la zone d'interdiction. Mais dans tous les cas, oui, on maintient.
Paul-Nicolas, une seconde. Eric Spitz, ce rassemblement du 25 août à proximité de la zone bleue et de la zone rouge, il est interdit.
Écoutez, je suis quelqu'un de pragmatique. Le 25 août, ce sera donc le dimanche, nous aurons eu le contre-sommet. On verra bien comment il se passe. Nous aurons eu la grande manifestation dont les organisateurs ont dit qu'ils la déclareraient, donc qu'ils discuteraient avec nous sur l'endroit où elle se déroulera. Si tout se déroule dans le meilleur des mondes, on pourra peut-être négocier quelque chose, une fois de plus, pour qu'ils puissent manifester leur opinion. On s'en en saura plus, vous savez, mais je peux pas lire dans l'avenir et dans le marc de café. Hein.
Michel Vanhack, ce rassemblement annoncé, il vous inquiète, ou est-ce qu'il vous semble assez cohérent, logique et entre guillemets, possible ?
Moi, je reprends à mon compte la formule de Monsieur le Préfet. Un sommet G7 réussi, c'est un contre-sommet réussi. Et donc, je me félicite aussi des propos très apaisés de notre interlocuteur. Et donc, à partir du moment où l'expression démocratique nécessaire, justifiée, se passe dans des bonnes conditions et dans des conditions négociées en amont, je pense que les choses peuvent se dérouler sans encombre. Il faudra continuer à négocier les conditions dans lesquelles ces manifestations se dérouleront, que ce soit le contre-sommet lui-même ou cette manifestation.
Laurent Tilleul, merci de nous avoir rejoints. On va attendre d'avoir la confirmation que ce contre-sommet se tiendra bien sur un ancien centre de colonie de vacances à Urugne, près d'Andaï. Et je pense que la confirmation devrait tomber assez rapidement.
Érico Plaça, le débat sur France Bleu Pays Basque.
Paul-Nicolas, il y a un autre aspect, on avait commencé plus ou moins de l'évoquer, c'est bien sûr la sécurité, c'est tout ce qui est en termes d'organisation et qui va concerner différents services. On peut parler du centre hospitalier de la Côte Basque, on peut parler peut-être aussi du secteur judiciaire qui devrait avoir un certain nombre de charges. Paul-Nicolas.
Oui, Eric Spitz, alors l'organisation judiciaire, le tribunal de Bayonne en l'occurrence se prépare à ce G7, ou en tant que représentant de l'État, vous pouvez nous dire quoi en ce qui concerne les gardes à vue qui seront peut-être plus nombreuses? Est-ce qu'il va y avoir des centres de gardes à vue spécifiques? Est-ce qu'il y a des renforts de magistrats? Est-ce que vous avez des informations là-dessus?
Évidemment que j'ai des informations précises sur toutes les questions que vous me posez, mais jusqu'à présent j'ai d'excellentes relations avec le procureur général.
Non, on ne va pas se fâcher avec Monsieur Volta Simon, mais
oui. Non, mais il y a une séparation des pouvoirs en France. J'essaye de vous dire ce que je peux vous dire sans froisser les magistrats. Évidemment, nous travaillons ensemble. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait des réunions. Donc, il y a une bonne coordination entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire. Et dans le cadre de la préparation de ce G7, un important travail a été réalisé pour savoir ce qu'on peut faire ensemble. Évidemment, tout comme les policiers, les sapeurs-pompiers, les gendarmes, les magistrats bénéficieront de renforts. Dans quelle quantité, ça, il faudra le demander directement au procureur de la République. Et bien évidemment, il est de notre devoir de travailler ensemble pour que de nombreuses gardes à vue puissent être réalisées simultanément, parce que c'est le seul moyen d'arrêter un moment quand ça dégénère.
Oui.
Donc nous sommes en train de prendre des dispositions pour disposer des moyens appropriés pour répondre à ça, mais là franchement il faudrait vraiment que vous invitiez plutôt le procureur de la République, parce que j'empiéterais sur le pouvoir judiciaire si je vous en disais plus.
Et alors on va parler du pouvoir hospitalier, je ne sais pas si c'est un pouvoir, mais l'hôpital, là aussi j'imagine qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place.
Oui, il va y avoir notamment sur l'aéroport de Biarritz l'installation de 450 sapeurs-pompiers professionnels avec plusieurs colonnes de renfort qui viendront d'autres départements. Donc il y aura des hélicoptères, enfin il y aura tout ce qu'il faut dans le domaine de la santé. Évidemment, chaque chef d'État bénéficie d'un suivi de santé personnalisé et tous les hôpitaux du département et même en dehors du département seront mobilisés en cas de difficulté.
On connaît le coût global de l'organisation d'une telle manifestation ?
Le Parlement a alloué une enveloppe de 37 millions d'euros au secrétariat général du G7 pour tout organiser. À comparer pour le dernier sommet qui a eu lieu au Canada avec les 300 millions de dollars qui ont été alloués au...
10 fois moins.
Oui, mais ils avaient des problèmes logistiques du fait qu'ils étaient installés dans une île, donc ça leur a coûté très cher.
Oui.
Mais bon, il y a aussi d'autres frais. Ça, c'est les frais dédiés directement au G7 pour louer les hôtels, installer les délégations, etc. Mais il faudrait une comptabilité analytique pour savoir exactement ce que ça va coûter. Tout ce que l'on sait, ça peut vous rassurer, c'est que la Cour des comptes, après le G7, va analyser chaque euro dépensé et va rendre un rapport. Et là, on saura exactement quel a été le coût de ce sommet.
Michel Venac, sur la ville de Biarritz, il y a une organisation particulière qui est mise en place pour certains services de la ville. Il y a forcément une logistique à prévoir en interne.
Oh, depuis plusieurs mois, nous avons une cellule, effectivement, qui travaille en étroite liaison avec les services de l'État sur tous les sujets qui vont impacter la ville. J'en parlais de la mobilité tout à l'heure, mais il y a bien d'autres sujets. Donc, nous avons effectivement organisé un groupe de travail avec les services concernés par le G7.
Alors sachez, messieurs, c'est une information toute récente, une quarantaine d'organisations environnementales, humanitaires, sociales ou de défense des droits de l'homme viennent d'écrire au chef de l'État craignant de se voir exclu du G7 de Biarritz fin août. Ils se disent inquiets face à des développements récents qui mettraient à mal la participation de la société civile sous la présidence d'Emmanuel Macron. On a quand même le sentiment que la société civile a envie d'être quelque part dans le débat, nécessairement dans le débat.
Elle est dans le débat, mais je vais laisser la parole par courtoisie, puisqu'il organise ses forums avec les autres collectivités locales. Je vais laisser la parole au maire de Biarritz. Il y a trois forums qui sont organisés par les collectivités locales, dont un s'est déroulé cet après-midi, mais je laisse Michel Venac en parler.
Michel Venac, on sent que la société civile est intéressée par ce sujet. Elle peut être en contradiction avec les valeurs portées par les chefs des grandes puissances, mais la société civile a besoin de participer.
Dès le départ, nous avons considéré qu'il y aurait un avant G7. Et cet avant G7 est fait pour valoriser les territoires où va se dérouler le sommet. Et donc nous avons créé un comité de valorisation de nos territoires avec la région Nouvelle-Aquitaine, avec le conseil départemental, avec la communauté d'agglomération Pays Basque, avec le conseil de développement du Pays Basque, et un certain nombre d'événements se déroulent. Le premier avait lieu aujourd'hui à la CCI sur les inégalités femmes-hommes. Il y aura deux autres forums qui seront organisés, et là la société civile s'exprime. Je peux vous le dire, cet après-midi à la CCI, la société civile s'est exprimée sur ce sujet extrêmement important.
Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il peut ressortir d'une réunion qui a lieu un vendredi à la CCI, où on va évoquer le sport féminin, les violences faites aux femmes et les femmes dans le monde de l'entreprise. En termes de violences faites aux femmes, qu'est-ce qui peut ressortir?
Il peut ressortir que tout ce qui a été dit cet après-midi, en présence, non pas de la ministre qui a été empêchée au dernier moment, mais de son directeur de cabinet, remontera au gouvernement. J'ajoute que les deux autres forums, l'un concernera les inégalités territoriales et que là aussi, tout ça organisé par le conseil départemental et tout ça remontera au gouvernement. Et enfin, le troisième touchera à la question de la biodiversité océan-climat. Et ça, c'est une contribution qui a été demandée par le président de la République lui-même. Et donc, cette contribution est en train d'être préparée et cette contribution sera remise au moment du sommet, au chef d'État.
Sur les violences faites aux femmes, il y aura du concret sur le territoire. Mais l'accueil dans les commissariats, l'accueil dans les gendarmeries spécifiques.
Entendre toutes nos réussites, c'est-à-dire nos réussites, ce sont toutes les actions qui sont faites aujourd'hui par des travailleurs sociaux, par un certain nombre d'organismes, pour répondre aux problèmes que posent les violences faites aux femmes.
Érico Plaça, le débat sur France Bleu Pays Basque.
Alors ce G7, Paul Nicolas, il a également été présenté comme une opportunité économique pour Biarritz et pour le Pays Basque. Le G7 n'est pas encore arrivé, mais est-ce qu'il y a déjà des retombées? Et s'il y en a, quelles sont-elles et comment est-ce qu'elles se matérialisent pour le territoire?
Oui, Michel Venac, vous venez on vient d'en parler, ce comité de valorisation qui regroupe un peu toutes les initiatives locales, est-ce que vous allez lui-même l'évaluer à la fin?
Bien sûr, on va évaluer ses résultats, mais je voudrais donner quelques exemples de ces retombées économiques avant le G7. Étant entendu qu'il y a des retombées économiques, et toutes les manifestations de ce type que nous avons pu recevoir à Biarritz l'ont montré, il y a des retombées économiques après le G7 également. Trois exemples. Premier exemple, Pragma. Pragma, c'est une société qui fait des vélos à hydrogène, est installé à Biarritz. 200 vélos viennent d'être achetés pour être mis à disposition des journalistes qui seront à la Aldirati. Je vous donne un deuxième exemple, très très important. La sous-traitance, le G7 consomme. Il est consommateur de biens. Et donc, les sous-traitances et les appels d'offres à la sous-traitance sont en train d'être lancés. Le premier vient d'être lancé dans le cadre des obligations des marchés publics, bien évidemment. Il touche aux hôtesses, à la recherche d'hôtesses. On va avoir besoin de beaucoup d'hôtesses au moment du G7. Eh bien, je sais qu'il y a des sociétés biarrotes qui sont en train de préparer leur réponse comme sous-traitance à cette demande-là. Il y a également beaucoup d'entreprises locales qui m'ont envoyé des propositions pour un certain nombre de produits. Et donc, ces propositions sont en train d'être examinées. Et enfin, il y aura une application qui sera à la disposition des délégations et de toutes les journalistes qui viendront au moment du G7 pour pouvoir entrer en contact directement avec les commerçants dont ils auront besoin.
Et votre avis, Michel Venac, le G7 va rapporter plus qu'il ne va coûter à la ville de Biarritz?
Ah, je pense, ah oui, tout à fait.
Ça va être difficile à évaluer.
Ça va être difficile à évaluer, bien évidemment, mais vous savez qu'il rapporte déjà, parce qu'il y a des délégations qui viennent toutes les semaines. Des délégations qui viennent à Biarritz toutes les semaines. Elles sont discrètes, elles sont anonymes, d'une certaine manière, mais elles sont là. On a reçu des délégations de Japonais, on a reçu des délégations d'autres pays, et ces gens-là viennent, sont hébergés, consomment, se restaurent, etc.
Eric Spitz, préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Oui, ce qui est très important dans ce qu'a dit Michel Venac, c'est qu'en fait, tout se joue pas du 24 au 26 août.
Oui, on l'a bien compris, oui.
On a réalisé une plaquette de présentation non seulement du Pays Basque, des Pyrénées-Atlantiques, de la Nouvelle-Aquitaine, qui a été distribuée à 500 exemplaires dans tous les médias étrangers, dans toutes nos ambassades. Et nous avons des voyages de presse qui sont organisés, des retombées en termes d'image qui sont déjà énormes, bien avant la tenue du G7, et ça va s'accentuer. Donc il y a un véritable enjeu. Tout se joue pas pendant ces 3 jours, c'est finalement très court, ça va se jouer au cours aussi des prochaines semaines et dans les semaines qui
suivent. Premier voyage de presse, monsieur le préfet, la semaine prochaine, c'est d'ailleurs, ça. Pendant 3 jours, nous allons promener dans le Pays Basque une quinzaine de journalistes de rédactions étrangères à Paris et qui vont effectivement découvrir le territoire sur lequel se tiendra l'événement.
Alors, question très précise, il y a lors de ces rassemblements, de ces grands sommets, des cadeaux qui sont offerts aux délégations. Est-ce qu'il y a des entreprises du Pays Basque qui fourniront ces cadeaux, lesquelles et dans quelles conditions? Et est-ce qu'il n'y a que des entreprises Pays Basque ou est-ce que le marché est ouvert à d'autres entreprises? C'est une question qui a tourné dans le monde de l'entreprise.
Bien sûr, eh bien, je peux vous dire que j'ai déjà eu des propositions d'entreprises du Pays Basque et que nous allons privilégier plutôt les entreprises du Pays Basque pour ces cadeaux.
Sur quel registre? Quelles entreprises et quel secteur d'activité?
Je préfère rester pour l'instant un petit peu discret là-dessus, parce que ces demandes ont été faites, on est en train de les examiner, mais c'est des entreprises qui sont connues, qui ont pignon sur rue au Pays Basque, et qui donc vont pouvoir bénéficier, elles aussi, de la venue du G7.
Une petite question à tous les deux, est-ce qu'on sait si Vladimir Poutine, qui officiellement n'est pas invité, est-ce qu'il pourrait venir en tant qu'invité au dernier moment? On sait qu'il aime beaucoup Biarritz, hein?
Oui, enfin, monsieur le préfet est certainement mieux informé que moi.
Moi, j'ai un peu regardé l'histoire du G7 avant de venir ici, et les participants au sommet du G7 avaient proposé à Vladimir Poutine en 2017 de participer au sommet, et il a refusé. Donc, il a décidé de ne plus y participer.
Les délégations, les chefs d'État seront logés, sur Biarritz ou plus largement sur le secteur du Pays Basque.
Les grandes délégations à Biarritz, c'est à l'hôtel du Palais.
Pour les autres délégations, on annonce 5000 personnes. L'hébergement se fait jusqu'à Pau, sur Dax, sur différents secteurs.
Le périmètre est très élargi. Et les hôtels qui ont fait l'objet de pré-réservations, effectivement, vont sur un périmètre qui va jusque dans les Landes et au Béarn. Ouais.
C'est ça, mais on a quand même essayé de loger les délégations plus proches de Biarritz. C'est plutôt les forces de l'ordre et d'autres renforts qui vivent assez loin de Biarritz.
Les travaux à l'hôtel du Palais seront terminés en temps et en heure ?
30 juin. Je suis passé ce matin, les travaux seront finis le 30 juin pour une raison qui est très simple, c'est que les premières réservations des clients, les clients habitués à l'été à l'hôtel du Palais, la majorité des clients qui ont l'habitude de venir en juillet, août et septembre, ont renouvelé leur réservation cette année.
Et la dernière tranche de travaux reprendra après ?
En octobre.
Détail très pratique, on sait que la grande plage à Biarritz sera inaccessible. Oui. Est-ce que d'autres plages seront fermées sur Biarritz et ailleurs ?
Monsieur le Préfet, Eric Spitz.
Non, il n'y aura pas d'autres plages qui seront fermées. On pourra se baigner en Glette, on pourra se baigner sur la plage des Basques. Donc, il n'y a aucun sujet.
L'embouchure de la Dour ne sera pas bloquée, sera accessible ?
Non, c'est vraiment la zone devant le Grand Palais et devant le casino qui sera interdite à la baignade.
Paul Nicolas, une petite dernière question.
Oui, on la pose à tous nos invités politiques qui viennent à cette émission. Michel Venac, vous n'allez pas y échapper. Vous serez candidat en mars prochain au municipal, à votre propre réélection.
Écoutez, j'ai déjà donné ma réponse. Ma réponse n'en est pas une.
Non, la réponse sur la date.
Voilà. Je me prononcerai à l'automne, dans le courant du mois de septembre, après avoir réfléchi.
Oui, la bonne tenue du G7 pourrait être une formidable rampe de lancement.
On le dit.
Voilà. On le pense.
Oui, on le pense. Mais voilà. Donc, franchement, je suis aujourd'hui sur des dossiers extrêmement importants.
Oui, mais celui-ci aussi est important.
Le G7, d'autres encore. Et donc, je me prononcerai le moment venu.
Eric Spitz, ce serait quoi un sommet du G7 réussi pour l'homme d'État, le préfet que vous êtes ?
Un sommet où, sans incident d'ordre public et où la belle image du Pays Basque en général et de Biarritz en particulier, il nous reste de belles images dans la tête. Et puis la cerise sur le gâteau, ce serait un accord diplomatique sur des choses importantes dans le monde pour que Biarritz reste le nom de Biarritz.
Sur des sujets majeurs, parce qu'on parle beaucoup d'environnement, on en parle beaucoup en France, on en parle beaucoup en Europe, mais on a le sentiment qu'il n'y aura rien là-dessus.
Des accords peuvent être signés.
On parle de Johannesburg parce qu'il y a le sommet de Johannesburg. On parle de Rio 30 ans plus tard ou 20 ans plus tard parce qu'il y a eu le sommet de Rio. On parle du sommet de Paris. Moi, j'espère que Biarritz, non seulement s'attachera à une image de calme, et puis également qu'elle attachera son nom peut-être à une décision symbolique prise. Par exemple, sur le climat, on peut toujours espérer.
En tout cas, monsieur le préfet, c'est la volonté du président de la République que sa présidence reste une présidence marquante dans l'histoire.
Michel Venac, Eric Spitz, merci d'avoir participé à Eric au Plaza, le débat spécial G7. Et bon week-end.